Chapitre 8. Señores, racontait le général à ses hôtes, les préoccupations d'amour qui m'enchantaient à cette époque n'empêchaient pas la vue de cette demeure de m'affecter toujours désagréablement, surtout sous le clair de lune qui lui donnait avec ses persiennes closes et son aspect abandonné un air parfaitement sinistre. Je continuais pourtant à passer par le chemin du ravin parce que c'était un peu raccourci. L'énergumène ricanait et hurlait tout son soûl chaque soir sur mon passage, mais au bout d'un certain temps, il cessa de se montrer à la porte, comme si mon indifférence l'eût lassé. Comment on l'avait convaincu de rester en paix, je ne saurais le dire. Évidemment, avec Gaspar Ruiz dans la maison, il n'y avait pas de difficulté à le retenir de force. Il devait entrer maintenant dans les plans de ces gens-là de ne rien faire qui pût me provoquer. Au moins, je le suppose. Mon engouement pour les plus beaux yeux du Chili ne m'empêcha pas, au bout d'une semaine, de remarquer l'absence du vieillard. Quelques jours passèrent, je commençais à penser que ces royalistes avaient pu déguerpir. Puis, un soir, comme je me hâtais vers la ville, je vis une silhouette sous le porche. Ce n'était pas le fou, c'était la jeune fille. Elle se tenait toute droite, la main appuyée contre une des colonnes de bois, grande et pâle, ses larges yeux creusés par les privations et le chagrin. Je la regardai fixement, et ses yeux rencontrèrent les miens avec un regard étrange, scrutateur. Au moment où je retournai la tête, après avoir dépassé la maison, elle parut s'armer de tout son courage pour me faire signe de revenir en arrière. J'obéis machinalement, señores, tant était grand mon étonnement. Il redoubla encore lorsque j'entendis ces paroles. Elle commença par me remercier de ma patience à l'endroit de son père. J'en fus honteux. C'est du dédain et non de la patience que j'avais voulu montrer. Ces paroles devaient lui brûler les lèvres, mais elle ne se départit pas un instant d'une dignité douce et mélancolique qui me remplissait d'un respect involontaire. Il n'y a pas à lutter contre les femmes, señores. Quand elle commença son histoire, j'eus peine à croire mes oreilles. « C'est la Providence, conclut-elle, qui avait épargné la vie d'un homme injustement condamné, et qui maintenant se confiait à mon honneur de caballero et à ma compassion pour ses souffrances. « Injustement condamné, déclarai-je froidement. C'est aussi mon avis. Par conséquent, vous avez hébergé un ennemi de votre cause. » C'était un pauvre chrétien qui implorait secours à notre porte au nom de Dieu, Seigneur, répondit-elle simplement. Je commençai à l'admirer. Où est-il maintenant? Demandai-je avec raideur. Elle ne répondit pas à ma question. Avec une habileté parfaite et une délicatesse presque démoniaque, elle sut, sans blesser mon orgueil, me rappeler l'échec de ma tentative en faveur des prisonniers du fort. Naturellement, elle connaissait toute l'histoire. Gaspar Ruiz, me dit-elle, me suppliait de lui procurer un sauf-conduit du général San Martin lui-même. Il avait une communication importante à faire au général en chef. Por Dios, señores, elle me fit avaler tout cela en se donnant pour le porte-parole du pauvre garçon. Écrasé par l'injustice, il espérait trouver en moi une générosité égale à celle qui lui avait été témoignée par la famille royaliste chez qui il avait trouvé un refuge. Ah, c'était bien et noblement parlé à un jouvenceau comme moi. Je la jugeais grande. Hélas, elle n'était qu'implacable. Je finis par m'éloigner plein d'enthousiasme et sans même demander à voir Gaspar Ruiz, dont la présence dans la maison me paraissait certaine. Puis une réflexion plus calme me fit entrevoir des difficultés que je n'avais pas assez de confiance en moi pour surmonter seul. Il n'était pas facile d'aller raconter au général en chef une histoire semblable. Je redoutais un échec, et jugeais préférable d'exposer le cas à mon général de division, Robles, un ami de ma famille, qui m'avait depuis réclamé comme aide de camp. Tout de suite, et sans cérémonie, il me soulagea de mes doutes. « Dans la maison, naturellement il est dans la maison, » dit-il d'un ton méprisant. « Vous auriez dû y entrer, l'épée à la main, et lui ordonner de se rendre. » Au lieu de bavarder sous le porche avec une jeune royaliste. Ces gens-là auraient dû être expulsés depuis longtemps. Qui sait combien d'espions ils ont hébergés en plein milieu de nos camps? Un sauf-conduit du général en chef, Le bonhomme a de l'audace. Ah, nous allons le prendre ce soir et nous verrons bien, sans sauf-conduit, ce qu'il a de si important à dire. » Le général Robles, paix à son âme, était un homme gros et court, avec des yeux ronds, fixes, et un regard de féroce jovialité. Il ajouta devant ma détresse, « Allons, allons, Chico, je vous promets sa vie s'il ne résiste pas, et c'est fort probable. Nous n'allons pas démolir un bon soldat si nous pouvons faire autrement. Écoutez, je suis curieux de voir cet Hercule. Le Picaro veut un général? Eh bien, il en aura un à qui parler. Ah, ah, j'irai moi-même assister à sa capture, et vous en serez aussi, naturellement. » Et l'expédition s'organisa pour le soir même. Aux dernières lueurs du crépuscule, maison et verger furent silencieusement cernés. Plus tard, le général et moi quittâmes un bal où nous assistions en ville et gagnâmes le vallon au petit galop. Nous nous arrêtâmes à quelque distance de la maison en remettant nos chevaux à un soldat monté. Un coup de sifflet doux avertit les guetteurs du ravin et nous montâmes sans bruit jusqu'au porche. La maison barricadée semblait vide sous le clair de lune. Le général heurta la porte. Après quelques instants, une voix de femme demanda de l'intérieur qui était là. Mon chef m'allongea un coup de coude qui me coupa le souffle. « C'est moi, le lieutenant Santierra, » balbutiai-je comme un homme qui étouffe. « Ouvrez !» La porte s'ouvrit furtivement. La jeune fille tenait à la main une maigre chandelle. En voyant un autre homme avec moi, elle se mit à reculer lentement devant nous. Son visage impassible et pâle lui donnait un air de spectre. Je marchais derrière le général Robles. Elle tenait les yeux fixés sur moi. Je fis un geste d'impuissance par-dessus le dos de mon chef et m'efforçai de donner à mon visage une expression rassurante. Nous ne soufflions pas mot. Nous nous trouvions dans une pièce au plancher et au mur nu qui renfermait pour tout mobilier une table grossière et deux tabourets. Une vieille femme aux cheveux gris épars se tordit les mains à notre approche. Un bruyant éclat de rire sonna de façon sinistre et déplaisante dans la maison vide. La vieille essaya de passer devant nous. « Ne laissez sortir personne !» ordonna le général Robles. Je poussai la porte, dont j'entendis claquer le pêne, et le rire ne parvint plus qu'affaiblir à nos oreilles. Avant que nous eussions pu dire un mot, je fus stupéfait d'entendre un grondement lointain de tonnerre. J'avais emporté dans la maison l'impression d'une nuit claire, sans l'ombre d'un nuage au ciel. Je n'en croyais pas mes oreilles. Envoyé de bonne heure à l'étranger pour y faire mon éducation, je n'étais pas familiarisé avec le phénomène naturel le plus redouté de mon pays natal. J'aperçus avec un étonnement inexprimable un regard de terreur dans les yeux de mon chef. Et tout à coup, je me sentis pris de vertige. Le général tituba lourdement contre moi. La jeune fille semblait vaciller au milieu de la pièce. La chandelle lui tomba des mains et s'éteignit. Un cri aigu de « Misericordia » poussé par la vieille femme me perça les oreilles. Dans la nuit d'encre, j'entendis le plâtre se détacher des murs. Il est heureux qu'il n'y eût pas de plafond. Je me cramponnais au loquet de la porte, tandis qu'au-dessus de ma tête, les tuiles du toit cessaient de grincer. La secousse était finie. « Dehors, la porte ! Fuyez, Santierra, fuyez !» hurlait le général. Dans notre pays, señores, les plus braves n'ont pas honte d'avouer la terreur qu'un tremblement de terre inspire à tous les hommes. On ne s'y fait pas. Une expérience renouvelée ne fait qu'ajouter à l'horreur de cette épouvante sans nom. C'était mon premier tremblement de terre, et j'étais le plus calme de tous. Je compris que le craquement venu du dehors était causé par la chute du porche avec ses pilastres de bois et son toit de tuiles en surplomb. La prochaine secousse allait peut-être démolir la maison. Le grondement de tonnerre se rapprochait de nouveau. Le général courait autour de la pièce, à la recherche de la porte peut-être. Je jugeai à l'entendre qu'il tentait d'escalader les murs, et sa voix invoqua distinctement les noms de plusieurs saints. « Dehors, Santierra, dehors » hurla-t-il. La voix de la jeune fille est la seule que je n'entendis pas. « Général, criai-je, je ne puis ouvrir la porte. Nous devons être enfermés. » Je ne pus reconnaître sa voix dans la bordée de jurons et de cris de désespoir qu'il lança. Je connais bien les âmes de mon pays, señores, surtout ceux des provinces les plus exposées aux tremblements de terre, qui ne voudraient jamais manger, dormir, prier, ou même faire une partie de cartes avec des portes closes. Le danger consiste moins dans la perte de temps que dans le mouvement des murs qui peut empêcher complètement une porte de s'ouvrir. C'est ce qui venait de se passer. Nous étions pris au piège, sans aucune aide à attendre de personne. Il n'y a pas un homme dans mon pays qui consente à entrer dans une maison quand la terre tremble. Il n'y en avait jamais eu, sauf un seul, Gaspar Ruiz. Il était sorti du trou où il nichait et avait sauté par-dessus la charpente du porche démoli. J'entendis une voix puissante, sortie de poumons de géant, qui dominait le grondement souterrain de la destruction approchante, pour crier « Herminia !» Un tremblement de terre est grand niveleur de situation. Je fis appel à toute mon énergie pour surmonter la terreur de la scène. « Elle est ici » criai-je. Un rugissement de bête sauvage me répondit. Ma tête tournait, mon cœur cessait de battre. Une sueur d'angoisse ruisselait sur mon front. Il eut la force de soulever l'un des lourds poteaux du porche. Il le tenait sous l'aisselle comme une lance à deux mains. Il chargea comme un bélier la maison trépidante, enfonçant la porte, et passa la tête la première par-dessus nos corps prostrés. Le général et moi nous nous levâmes pour bondir au dehors, sans regarder derrière nous avant d'avoir franchi la route. Alors, nous étreignant, nous vîmes la maison se transformer soudain en un tas de décombres informes, derrière le dos d'un homme qui courait tout titubant vers nous, avec le corps d'une femme dans les bras. Ses longs cheveux tombaient presque à ses pieds. Il la déposa sur la terre mouvante, et la lune éclaira ses yeux fermés. Nous eûmes de la peine à remonter à cheval. Nos bêtes affolées se cabraient, tenues à grand-peine par les soldats accourus de toutes parts. Les yeux des hommes et des animaux luisaient d'une terreur folle. Mon général s'approcha de Gaspar Ruiz, penché dans une immobilité de statue, au-dessus de la jeune fille. Il se laissa secouer l'épaule sans détacher les yeux du visage inanimé.
« Que guapo !»
lui cria le général à l'oreille. « Tu es le plus brave des hommes. Tu m'as sauvé la vie. Je suis le général Robles. Viens au camp demain matin, si Dieu nous accorde la grâce de voir un autre jour. » Ruiz ne bougeait pas, comme s'il eût été sourd, insensible, inerte. Nous nous dirigions vers la ville, pleine de nos parents, de nos amis, dont nous n'osions pas envisager le sort. Les soldats couraient à côté de nos chevaux. Tout était oublié dans l'immensité de la catastrophe qui désolait le pays. Gaspar Ruiz vit la jeune fille ouvrir les yeux. Le mouvement de ses paupières parut l'arracher de sa léthargie. Ils étaient seuls. Les cris de terreur et de détresse des gens sans abri remplissaient la plaine et la côte, formidables et lointains, parvenus comme des murmures jusqu'à la solitude des deux abandonnés. Elle se redressa brusquement et jeta autour d'elle des regards de terreur. « Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle à voix basse, puis regardant en face Gaspar Ruiz, « Où suis-je ? » Il pencha tristement la tête sans un mot. « Qui êtes-vous ? » Il s'agenouilla lentement devant elle et toucha l'ourlet de sa jupe d'étoffe grossière. « Votre esclave, » dit-il. Elle aperçut alors, à travers un nuage de poussière, le tas de décombres qui avait été la maison. « Ah ! » cria-t-elle, en pressant sa main contre son front. « Je vous ai enlevé de là-bas, » murmura-t-il à ses pieds. « Et eux ? » demanda-t-elle, avec un grand sanglot. Il se leva, la prit par le bras, et la mena doucement vers la ruine informe, à demi recouverte par un glissement de terrain. « Venez écouter, » dit-il. La lune sereine les vit grimper sur cet amas de gravats, de solives et de tuiles qui était une tombe. Ils collèrent leurs oreilles contre les interstices, guettant un gémissement, un soupir de douleur. À la fin, l'homme dit « Ils sont morts du coup, vous êtes seul. » Elle s'assit sur un morceau de poutre grillée, un bras sur le visage. Il attendit, puis approcha ses lèvres de l'oreille de la jeune fille. « Partons, » murmura-t-il. « Partir d'ici ? Jamais, jamais !» s'écria-t-elle, en levant les bras au-dessus de sa tête. Il se pencha sur elle, et les bras levés retombèrent sur ses épaules. Il la souleva, se remit d'aplomb, et partit, les yeux droit devant lui. « Que faites-vous ? » demanda-t-elle, faiblement. « J'échappe à mes ennemis, » répondit-il, sans regarder un instant son léger fardeau. « Avec moi ? » soupira-t-elle, sans volonté. « Jamais sans vous, vous êtes ma force. » Il la serra contre sa poitrine. Son visage était grave et son pas ferme. Les incendies allumés sur les ruines des villages détruits mettaient dans la plaine des taches de feu rouges, et les bruits de lamentations lointaines, les cris de « Misericordia, Misericordia » faisaient un murmure désolé dans ses oreilles. Il s'avançait, solennel et recueilli, comme s'il eût porté un fardeau sacré, fragile et précieux. La terre remuait de temps en temps sous ses pieds. Chapitre 9. Avec des restes d'une précision mécanique et un air d'abstraction, le vieux général Santiarra allumait un long et gros cigare. Il nous fallut plusieurs heures pour pouvoir envoyer un détachement au ravin, dit-il à ses hôtes. Nous avions trouvé un tiers des maisons écroulées, les autres ébranlées, et les habitants, riches ou pauvres, réduits à un égal état de démence par l'universel désastre. La gaieté simple des uns contrastait avec le désespoir des autres. Dans la confusion générale, nombre de bandits éhontés étaient devenus, sans crainte des dieux ou des hommes, un danger pour ceux qui avaient pu soustraire quelques objets de valeur à la ruine de leur foyer. Ces misérables, qui criaient plus fort que les autres « Misericordia » à chaque secousse, et se frappaient la poitrine d'une main, dépouillaient de l'autre les pauvres victimes et ne reculaient même pas devant le meurtre. La division du général Robles était tout entière occupée à protéger les quartiers détruits de la ville contre les déprédations de ces monstres inhumains. Absorbé par mes fonctions d'officier d'ordonnance, je ne pus, avant le matin, m'assurer du salut de ma propre famille. Ma mère et mes sœurs avaient pu s'échapper de la salle de bal où je les avais laissées dans la soirée. Je me rappelle ces deux belles jeunes femmes, Dieu ait leur âme, comme si je les voyais maintenant, dans le jardin de notre maison détruite, pâles mais actives, assistant dans leurs robes souillées et avec la poussière des murs écroulés sur les cheveux, certains de nos pauvres voisins. Quant à ma mère, elle abritait une âme stoïque dans son corps frêle. À demi couverte d'un châle précieux, elle était étendue sur un banc rustique près d'un bassin dont la fontaine avait cette nuit-là cessé à jamais de couler. À peine avais-je eu le temps de les embrasser toutes trois, à grand transport de joie, que mon chef survint et me dépêcha avec quelques hommes vers le ravin pour ramener mon Hercule, comme il disait, et la jeune fille pâle. Mais nous ne trouvâmes personne à ramener. Un glissement du sol avait recouvert les ruines de la maison, et l'on ne voyait plus qu'un monticule de terre, d'où des fragments de poutres émergeaient çà et là, rien de plus. Ainsi s'étaient terminées les tribulations du vieux couple royaliste. Une tombe énorme et sans considération les avait engloutis vivants dans leur malheureuse obstination contre la volonté de liberté d'un peuple, et leur fille avait disparu. Que Gaspard Ruiz l'eût emportée, j'en eus la conviction. Mais le cas n'était pas prévu, et je n'avais pas d'ordre pour les poursuivre. Au surplus, je n'en éprouvais nul désir. Je me méfiais maintenant de mes interventions. Elle n'avait pas été heureuse et ne semblait même guère à mon honneur. Il était parti. Eh bien, tant mieux. Et il emmenait la jeune royaliste. Rien de mieux encore. Vaya con Dios. Ce n'était pas le moment de nous tracasser sur le sort d'un déserteur qui, justement ou injustement, aurait dû être mort, et d'une fille pour qui mieux eût valu n'être jamais née. Je ramenai donc mes hommes en ville. Après quelques jours, l'ordre fut rétabli, et les principales familles, y compris la mienne, partirent pour Santiago. Nous y possédions une belle maison. En même temps, la division de Robles fut dirigée sur de nouveaux cantonnements près de la capitale. Ce changement servait au mieux mes sentiments amoureux et familiaux. Un soir, je fus convoqué assez tard par mon chef. Je trouvai le général Robles en uniforme, en train de boire de l'eau de vie pure dans un grand verre. Précaution à l'en croire contre l'insomnie due aux piqûres de moustiques. C'était un bon soldat qui m'a enseigné l'art et la pratique de la guerre. Dieu a dû lui être miséricordieux, car ses motifs ne furent jamais dictés que par le patriotisme, malgré son irascibilité. Quant au moustiquaire, il en tenait l'usage pour efféminé et honteux, indigne d'un soldat. Je vis du premier coup que son visage, déjà très rouge, trahissait une expression de fort bonne humeur. « Ah ah, señor teniente » cria-t-il très haut, en me voyant saluer sur le seuil de la porte. « Tenez, on a des nouvelles de votre Hercule. » Et il me tendait une lettre pliée dont je vis l'adresse. « Au commandant en chef des armées républicaines. » Cette lettre, reprit très haut le général, a été remise par un gamin dans la main d'une sentinelle du quartier général. L'animal pensait à sa bonne amie, sans doute, car avant qu'il ait pu revenir à lui, l'enfant avait disparu parmi les gens du marché, et le soldat proteste qu'il ne le reconnaîtrait pas pour sauver sa tête. Mon chef me raconta que le soldat avait remis au sergent de garde la lettre qui avait fini par arriver aux mains du généralissime. Son Excellence avait daigné en prendre connaissance, puis avait parlé en secret de l'affaire au général Robles. « Je ne me souviens pas textuellement de cette lettre, señores. Elle portait la signature de Gaspar Ruiz. » L'audacieux, il avait conquis une âme sur le cataclysme, et maintenant c'est cette âme qui lui dictait sa lettre. Le ton en était très indépendant et me frappa sur le moment par sa noblesse, sa dignité. C'était la lettre de la jeune femme, évidemment. Maintenant, la duplicité m'en fait frémir. Gaspar Ruiz se plaignait de l'injustice dont il avait été victime et rappelait ses preuves préalables de fidélité et de courage. Sauvé de la mort par l'intervention miraculeuse de la Providence, il ne songeait plus qu'à se réhabiliter. Mais c'était chose impossible dans le rang, comme simple soldat encore sous le coup des soupçons. Il se faisait fort de fournir une preuve éclatante de sa fidélité. Et il proposait au général en chef un rendez-vous à minuit au milieu de la place, devant la Moneta. Comme signe de reconnaissance, les deux hommes battraient trois fois le briquet, ce qui n'attirerait pas l'attention, tout en étant bien caractéristique. San Martin, le grand libérateur, aimait les hommes d'audace et de courage. De plus, il était juste et compatissant. Je lui dis ce que je savais de l'histoire de Ruiz, et il me pria de l'accompagner la nuit désignée. Les signaux furent échangés. Il était minuit, et toute la ville reposait dans l'ombre et le silence. Les deux silhouettes en manteau se réunirent au centre de la vaste plaza, et, restés discrètement à l'écart, je perçus durant une heure ou plus le murmure de leurs voix. Alors le général me fit signe d'approcher, et j'entendis San Martin, qui témoignait d'une égale courtoisie pour les humbles et les nobles, offrir à Gaspar Ruiz l'hospitalité de son quartier général pour la nuit. Mais le soldat refusa, en disant qu'il ne s'estimerait pas digne d'un tel honneur avant d'avoir fait quelque chose. « Vous ne sauriez avoir un déserteur pour hôte, Excellence, » protesta-t-il avec un rire sourd, et il recula pour se perdre lentement dans la nuit. « Il avait quelqu'un avec lui, notre ami Ruiz, » me dit le général en chef, au moment où nous nous éloignons. J'ai vu deux ombres pendant un instant. C'est un compagnon bien discret. Moi aussi j'avais vu une seconde ombre rejoindre l'ombre vague de Gaspar Ruiz. C'était une silhouette petite, avec un poncho et un grand chapeau. Stupidement, je me demandais à qui il avait pu oser se confier ainsi. J'aurais bien dû deviner que ce ne pouvait être que cette fille fatale, hélas. Où il l'avait cachée, je ne le sais. Il avait, on apprit plus tard, un oncle, frère de sa mère, petit boutiquier à Santiago. Peut-être est-ce chez lui qu'elle trouva la table et le gîte. En tout cas, c'était des conditions assez misérables pour exaspérer son orgueil et tenir allumée sa colère et sa haine. Il est certain qu'elle n'accompagna pas Ruiz dans le premier de ses exploits. Il s'agissait de détruire un stock de matériel de guerre accumulé en secret par les autorités espagnoles dans une ville du sud, appelée Linares. On avait confié à Gaspar Ruiz qu'un petit détachement, mais ces hommes se montrèrent dignes de la confiance de San Martin. La saison n'était guère propice. Ils durent traverser à la nage des rivières gonflées. Ils n'en galopèrent pas moins nuit et jour, devançant le bruit de leur expédition, et se dirigèrent droit sur la ville à travers 100 000 de pays ennemis, pour y entrer à l'aube, sabre en main, et surprendre la petite garnison. Les défenseurs s'enfuirent sans résistance, en laissant la plupart de leurs officiers aux mains de Gaspard Ruiz. L'explosion de la poudrière couronna l'incendie que les agresseurs avaient, sans perdre de temps, allumé dans les magasins. Moins de 6 heures après leur arrivée, ils filaient à la même allure folle, sans avoir perdu un seul homme. Quelle que fût leur qualité, un pareil exploit ne s'accomplit pas sans une direction meilleure encore. Je dînais au quartier général quand Gaspard Ruiz lui-même vint apporter la nouvelle de son succès. C'était un gros coup pour les troupes royalistes. Comme témoignage, il sortit de son poncho le drapeau de la garnison et le lança sur la table. L'homme était transfiguré. Il y avait dans l'expression de son visage quelque chose de triomphal et de menaçant. Il se tenait derrière la chaise du général San Martin et nous regardait tous fièrement. Il portait une calotte ronde de drap bleu bordée de galons d'argent et nous distinguions sur sa nuque brûlée une longue cicatrice blanche. Un des convives demanda ce qu'il avait fait des officiers espagnols captifs. Il eut un haussement d'épaule méprisant. Quelle question ! Dans une guerre de partisans, on ne s'embarrasse pas de prisonniers. Je les ai laissés filer, et voici les dragons de leurs épées. Il en jeta tout un paquet sur la table, à côté du drapeau. Alors le général Robles, que j'avais accompagné, cria de sa voix forte et épaisse : « Ah, vraiment ! Eh bien, mon brave ami, vous ne savez pas comment il faut mener une guerre comme celle-ci. Voilà ce qu'il fallait faire. » Et il passa le bord de sa main sur sa gorge. Hélas, señores, il est vrai que, de part et d'autre, cette guerre héroïque dans son essence était entachée de férocité. Les murmures que soulevèrent les paroles du général Robles étaient loin d'accuser une réprobation unanime. Seul le généreux et brave San Martin loua l'humanité de Gaspard Ruiz et lui désigna une place à sa droite. Après quoi il leva son verre plein en proposant un toast. « Caballeros et camarades d'armes, buvons à la santé du capitaine Gaspard Ruiz. » Et quand nous eûmes vidé nos verres, « Je vais, reprit le général en chef, lui confier la garde de notre frontière du sud pendant que nous irons libérer nos frères du Pérou. Celui que l'ennemi n'a pu empêcher d'aller le frapper en plein cœur saura protéger les populations paisibles que nous laissons derrière nous pour poursuivre notre tâche sacrée. » Et il embrassa Gaspard Ruiz, qui restait silencieux près de lui. Plus tard, quand on se leva de table, je m'approchai du dernier officier de l'armée pour lui présenter mes félicitations. « Et peut-être, capitaine Ruiz, ajoutai-je, voudrez-vous dire à un homme qui a toujours cru à votre loyauté ce qu'il est advenu de Doña Herminia, cette fameuse nuit ?» À cette question amicale, il changea de visage. Il me regarda par-dessous ses sourcils, avec des yeux lourds et ternes de guasso, de paysan. « Señor Teniente, dit-il, péniblement, comme un homme très ému, ne me parlez pas de la señorita. Je préfère ne pas penser à elle quand je suis au milieu de vous. » Il jeta un regard dur sur la pièce pleine d'officiers devisant et fumant. Naturellement, je n'insistai pas. Telles furent, señores, les dernières paroles que je devais lui entendre prononcer de longtemps. Le lendemain même, nous nous embarquions dans notre rude expédition du Pérou, et c'est seulement au milieu de nos propres batailles que nous parvint le bruit des faits et gestes de Gaspard Ruiz. Commis à la garde de notre frontière du sud, il leva une partida. Mais sa mansuétude pour les ennemis vaincus déplut au gouverneur civil, qui était un homme formaliste, inquiet et soupçonneux. Il adressa au gouvernement suprême des rapports contre Gaspard Ruiz. L'un de ces rapports accusait l'officier d'avoir épousé publiquement et en grande pompe une femme de tendance royaliste. Des querelles devaient forcément éclater entre ces deux hommes de caractères si différents. À la fin, le gouverneur civil se plaignit de l'inactivité de Ruiz et parla de trahison. Ce qui n'avait pas lieu de surprendre, écrivait-il, chez un homme à pareil antécédent. Gaspar Ruiz eut vent de cette lettre. Sa fureur s'alluma, et la femme, qui ne le quittait jamais, sut trouver des paroles perfides pour entretenir sa rage. Je ne sais si le gouvernement suprême envoya jamais, comme Ruiz s'en plaignit plus tard, des ordres pour l'arrêter. Il paraît au moins certain que le gouverneur civil se mit à intriguer auprès de ses officiers et que Gaspar Ruiz s'en aperçut. Un soir que le gouverneur donnait une tertulia, Gaspar Ruiz, suivi de 6 hommes de confiance, se présenta à cheval à la porte du palais du gouvernement et pénétra dans la salle armée, le chapeau sur la tête. Comme le gouverneur, furieux, s'avançait vers lui, il saisit le malheureux par la taille, l'enleva comme si c'eût été un enfant au milieu des invités terrifiés et le jeta dans la rue du haut du perron. Une étreinte rude de Gaspar Ruiz eût suffi à arracher la vie à un géant. Mais pour l'achever, les cavaliers de Ruiz déchargèrent leurs pistolets dans le corps du gouverneur, inerte au pied des marches. Après cet acte de justice, comme il l'appelait, Ruiz traversa le Rio Blanco, suivi par la majeure partie de sa bande, et se retrancha sur une colline. Une compagnie de troupes régulières, envoyée follement contre lui, fut cernée et presque anéantie jusqu'au dernier homme. D'autres expéditions, bien que mieux organisées, n'eurent pas plus de succès. C'est au cours de ces escarmouches sanguinaires que sa femme commença de se montrer à cheval à sa droite. Enfiévrée et mise en confiance par ses succès, Ruiz ne chargeait plus à la tête de sa partida, mais restait orgueilleusement à l'arrière comme un général qui dirige les mouvements d'une armée. Bien monté et immobile sur une éminence, il dépêchait ses ordres. Sa femme était presque toujours à son côté maintenant, et pendant longtemps on la prit pour un homme. On parlait beaucoup du chef mystérieux au pâle visage à qui l'on attribuait la défaite de nos troupes. Elle montait à califourchon, à l'indienne, et portait un chapeau d'homme à large bord avec un poncho sombre. Plus tard, au temps de leur plus grande prospérité, ce poncho était brodé d'or, et elle portait aussi l'épée du pauvre Don Antonio de Leyva. Ce vieil officier chilien avait eu le malheur de se laisser cerner avec sa petite troupe. Il se trouva bientôt à court de munitions et fut tué par les Indiens Arauco, alliés et auxiliaires de Gaspar Ruiz. Ce fut cette fatale affaire dont on parla longtemps comme du massacre de l'île. L'épée du malheureux officier fut offerte à la jeune femme par le chef araucanien. Frappée par son aspect, la pâleur mortelle d'un visage que nulle exposition aux intempéries ne semblait affecter, et sa calme indifférence sous le feu, ces Indiens la tenaient pour un être surnaturel, ou tout au moins pour une sorcière. Cette superstition rehaussait singulièrement le prestige et l'autorité de Gaspar Ruiz près de ces peuplades ignorantes. La jeune femme dut savourer largement sa vengeance le jour où elle ceignit l'épée de Don Antonio de Leyva. Elle ne la quittait jamais, sauf quand elle mettait des vêtements de son sexe. Non qu'elle sût ou désirât se servir d'une épée, mais parce qu'elle aimait sentir battre sur sa cuisse cette lame qui lui était un souvenir perpétuel et un symbole du déshonneur des armes républicaines. Elle était insatiable de vengeance. D'ailleurs, sur le chemin où elle avait poussé Gaspar Ruiz, il n'y avait pas d'arrêt possible. Des prisonniers échappés, bien rares d'ailleurs, comptaient comment quelques mots tombés de sa bouche suffisaient à modifier l'expression du géant et à ranimer sa fureur hésitante. Il disait qu'après chaque escarmouche, chaque excursion de pillage, chaque action heureuse, Ruiz allait droit à la jeune femme pour interroger un visage dont la hauteur ne se relâchait jamais. L'étreinte de cette femme devait être froide comme celle d'une statue, señores. Le pauvre garçon s'efforçait de faire fondre ce cœur de glace et d'y infuser un torrent de sang chaud. Des officiers de la marine anglaise qui le virent à cette époque s'étonnèrent de son étrange adoration. Devant le mouvement de surprise et de curiosité que trahissait son auditoire, le général Santierra s'interrompit un instant. « Oui, des officiers de la marine britannique, » reprit-il. Ruiz avait consenti à les recevoir pour traiter la libération de prisonniers anglais. Sur le territoire qu'il occupait, de la côte à la cordillère, s'ouvrait une baie, où, dans ce temps-là, faisaient escale pour s'approvisionner en bois et en eau les navires qui venaient de doubler le Cap Horn. Ayant attiré les équipages à terre, Ruiz captura d'abord l'Hersalia, un brick baleinier, et se rendit plus tard maître par surprise de deux autres vaisseaux, l'un anglais, l'autre américain. On crut d'abord qu'il rêvait de se monter une flotte, mais c'était là, vous le comprenez, un irréalisable projet. Il arma pourtant le brick, avec une partie de l'équipage captif, sous la surveillance d'un officier et de quelques hommes à lui. Il l'envoya au gouverneur espagnol de l'île de Chiloé, avec un rapport sur ses exploits et une demande de secours pour la guerre contre les rebelles. Le gouverneur ne pouvait pas grand-chose pour lui, mais il lui envoya en retour deux pièces légères de campagne, une lettre de félicitations, avec un brevet de colonel de l'armée royale et un grand drapeau espagnol. Cet étendard fut hissé en grande pompe au-dessus de sa demeure au cœur du pays Arauco. Sûrement ce jour-là, la jeune royaliste dut sourire avec moins de hautaine réserve à son guasso de mari. L'officier commandant l'escadrille anglaise de notre côte avait fait à notre gouvernement des représentations au sujet de ses captures. Gaspar Ruiz refusa de traiter avec nous. Sur quoi, une frégate britannique aborda dans la baie et le capitaine, le médecin et deux lieutenants débarquèrent sous sauf-conduit. Ils furent bien accueillis et passèrent 3 jours chez le chef de partisans. Une sorte de discipline barbare régnait à la résidence, qui était garnie des dépouilles des villes frontières. Quand les officiers furent introduits dans la grande salle, ils virent la jeune femme étendue, elle n'était pas en bonne santé à ce moment, avec Gaspar Ruiz à son chevet. Le chapeau de l'Hercule gisait à ses pieds, sur le sol, et ses mains reposaient sur la garde de son épée. Pendant cette première entrevue, il ne bougea qu'une fois ses grosses mains pour arranger les couvertures de la jeune femme avec des gestes d'attentive douceur. Les officiers remarquèrent que, chaque fois qu'elle parlait, Ruiz fixait les yeux sur elle avec une attention fervente et suspendue, comme s'il eût oublié l'existence du monde et la sienne propre. Au cours du banquet d'adieu où elle assistait, couchée sur un divan, il se plaignit amèrement des procédés dont il avait été victime. Entouré d'espions, après le départ du général San Martin, calomnié par les fonctionnaires civils, ses services méprisés, sa liberté et sa vie même avaient été menacés par le gouvernement chilien. Il se leva de table et arpenta la pièce en lançant des malédictions. Puis il s'assit sur le divan, au pied de sa femme, la poitrine haletante, les yeux fixés sur le sol. Elle se tenait allongée, la tête sur des coussins, les paupières mi-closes. « Et maintenant, on m'honore comme officier espagnol, » conclut-il d'une voix calme. Le capitaine de la frégate anglaise profita de ce moment pour l'informer doucement que Lima était tombée et que, selon les termes d'une convention, les Espagnols abandonnaient tout le continent. Gaspar Ruiz leva la tête et, sans hésitation, avec une violence contenue, affirma que s'il ne devait pas rester un seul soldat dans toute l'Amérique du Sud, il continuerait à mener la lutte contre le Chili jusqu'à sa dernière goutte de sang. Quand il acheva cette folle tirade, sa femme leva sa longue main blanche et lui caressa le genou du bout des doigts une fraction de seconde. Pendant le reste du séjour des officiers, qui ne se prolongea guère de plus d'une demi-heure après le banquet, ce chef féroce d'une partie de bandits déborda d'amabilité et de bienveillance. Il s'était montré hospitalier jusque-là, mais on eût dit qu'il ne pouvait assez faire pour le bien-être et la sécurité du voyage de retour de ses hôtes. Rien, me suis-je laissé dire, n'aurait pu présenter contraste plus saisissant avec son accent de violence récente et la réserve taciturne qui lui était habituelle. comme un homme particulièrement exalté par un bonheur inattendu, il n'était plus que bienveillance, amabilité et attention. Il embrassait les officiers comme des frères. Il avait les larmes aux yeux. À chacun des prisonniers relâchés, il donna une pièce d'or. Au dernier moment, il déclara brusquement ne pouvoir faire moins que de rendre aux patrons des bateaux de commerce tous leurs biens particuliers. Cette générosité inattendue causa quelques retards dans le départ de la petite troupe dont la première étape fut brève. À une heure avancée de la soirée, Gaspard Ruiz les rejoignit dans leur camp avec une escorte et une mule chargée de caisses de vin. Il était venu, dit-il, boire le coup de l'étrier avec ses amis anglais qu'il ne reverrait jamais. Il fit montre d'entrain et de joyeuse humeur. Il conta ses propres exploits, rit comme un enfant, et empruntant sa guitare muletier du capitaine anglais, s'assit, jambes croisées, sur son poncho luxueux, étendu devant le tas de braises, pour chanter d'une voix tendre un chant d'amour guasso. Tout à coup, sa tête tomba sur sa poitrine. Ses mains s'abaissèrent. La guitare roula de ses genoux, et un grand silence s'étendit sur le camp, après le chant d'amour de l'implacable partisan qui avait fait pleurer à tant de nos concitoyens leurs foyers en cendres et leurs amours détruites. Sans laisser à quiconque le temps de dire un mot, il sauta sur ses pieds et demanda son cheval. « Adios, mes amis, cria-t-il. Allez avec Dieu, je vous aime. Et dites-leur bien à Santiago qu'entre Gaspard Ruiz, colonel du roi d'Espagne, et les corbeaux du Chili, il y aura guerre jusqu'au dernier souffle. Guerre, guerre !» Son escorte répéta ce grand cri de guerre, 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 et bientôt le bruit des sabots des chevaux et des voix s'éteignit dans le lointain, entre les pentes des montagnes. Les deux jeunes officiers anglais étaient convaincus de la folie de Ruiz. Comment exprimez-vous cela? Une araignée au plafond, hein? Mais le docteur, un Écossais observateur, doué de beaucoup de finesse et de philosophie, me dit avoir décelé chez lui un cas très singulier de possession. C'est plusieurs années après que je le rencontrai, et il se souvenait très bien de cette circonstance. À son avis, ce n'est pas par persuasion directe que la jeune femme poussait Gaspard Ruiz à la trahison sanguinaire. C'est par la façon subtile qu'elle avait de réveiller et de tenir allumé dans son esprit ingénu le brûlant souvenir d'une irréparable injustice. Cela se peut bien. Le certain, c'est qu'elle avait versé la moitié de son âme vindicative dans la forte argile de cet homme, comme on peut verser dans une coupe vide, ivresse, folie et poison. S'il souhaitait la guerre, il la trouva pour de bon, quand notre armée victorieuse commença à rentrer du Pérou. On dirigea des opérations systématiques contre cet ennemi de l'honneur et de la prospérité d'une indépendance si durement acquise. C'est le général Robles qui prit la tête des opérations avec sa sévérité impitoyable et notoire. Des représailles féroces furent exercées de part et d'autre, et on ne fit pas de quartier sur les champs de bataille. Ayant gagné une promotion pendant la campagne du Pérou, j'étais capitaine dans l'état-major. Gaspard Ruiz se trouva rudement pressé au moment même où nous apprenions, par un curé de campagne, qu'une fille venait de lui naître. Le prêtre, arraché à son presbytère de village, avait dû faire à cheval 30 lieues de galop dans les montagnes avec ses ravisseurs pour célébrer la cérémonie du baptême avant de pouvoir s'échapper. Pour fêter l'événement, sans doute, Ruiz exécuta une ou deux brillantes razzias juste derrière nos positions et battit les détachements envoyés pour lui couper la retraite. De rage, le général Robles faillit avoir un coup de sang. Il avait trouvé une cause d'insomnie plus sérieuse que les moustiques, mais contre celle-là, señores, de pleins verres d'eau de vie pure n'avaient pas plus d'effet que de simples rasades d'eau. Il se mit à m'accabler de sarcasmes amers à propos de mon Hercule. Et notre impatient désir de voir se terminer une campagne sans gloire nous poussait, je le crains, nous autres jeunes officiers, à d'absurdes témérités et à des risques inutiles. Pourtant, lentement, pouce par pouce, pour ainsi dire, nos colonnes encerclaient Gaspard Ruiz, bien qu'il eût soulevé contre nous toute la sauvage tribu des Indiens araucaniens. Puis, quelques 12 ou 13 mois plus tard, Notre gouvernement fut avisé par ses agents et ses espions que l'officier rebelle avait scellé une véritable alliance avec Carreras, le soi-disant dictateur de la soi-disant République de Mendoza, sur l'autre versant des montagnes. Gaspard Ruiz nourrissait-il quelque profond projet politique ou voulait-il seulement assurer à sa femme et à son enfant un sûr asile pendant qu'il poursuivrait sans remords contre nous sa guerre d'embuscades et de massacres? Je ne saurais le dire. Au moins, l'alliance était-elle bien réelle? Déjoué dans sa tentative d'opposition à notre marche en avant de la mer, il battit en retraite, avec sa célérité ordinaire, et, pour se préparer à une nouvelle campagne, rude et hasardeuse, commença par envoyer sa femme, avec la fillette, par-dessus la chaîne de Pequeña, vers la frontière de Mendoza.